Allez, c'est bon. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Au nom du conseil d'administration du Qigong Bien-être, section de la FEP La Fraternelle Déchirée, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous avions un petit peu peur avec la météo qui n'était pas très favorable. Ça va mieux comme ça? Bon, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Au nom du conseil d'administration du Qigong Bien-être, section de la FEP La Fraternelle Déchirée, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. On avait peur avec la météo, mais je vois que vous êtes quand même déplacés très nombreux. Le docteur André Rousseau, président du groupe d'études et de recherche en méthode traditionnelle chinoise, GERMTC, qui anime également nos séances mensuelles du Qigong Bien-être, va vous exposer dans un premier temps les principes et conseils sur l'alimentation et la santé, saison du printemps, et dans un deuxième temps sur le Feng Shui. Pour information, je vous rappelle que le Feng Shui est un art chinois millénaire dont le but est d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. À la fin de cette conférence, le docteur Rousseau répondra à vos questions. Un débat sera ouvert. La conférence d'aujourd'hui fait partie d'un cycle de 4 sur le thème des saisons en fonction du calendrier chinois. Elle fait suite à celle du 17 janvier 2013, thème de l'hiver, organisé par le Qigong du foyer gélavien, dont le responsable est Alain Mixando. La troisième saison de l'été aura lieu le jeudi 6 juin à la salle 40 de Saint-Gelais. La quatrième saison automne aura lieu à Échiré. La date reste à fixer. Une information vous sera donnée en temps utile. Je remercie la municipalité pour le prêt de cette salle. Je vous souhaite une bonne soirée en vous rappelant la devise d'André Rousseau. On peut vieillir, rester en bonne santé et mourir en bonne santé. Voilà.
Je vous passe la parole.
Merci. Et d'abord, c'est... il n'y a pas 4 saisons, mais 5 saisons. Hein? Donc il y aura une 5e. C'est l'intersaison. Puisque pour les Chinois, il y a 5 saisons. Dans les papiers qui vous ont été remis, vous pourrez voir qu'on a 5 saisons. Maintenant, c'est automne, hiver et intersaison qui est partagé en 4. Donc, je vais reprendre après. Alors, le déroulement, c'est un petit peu... on va parler du printemps en lui-même, hein, un beau printemps comme on a actuellement, et c'est un printemps superbe. Et donc, oui, on n'a pas besoin d'arroser, ça c'est sûr. Il vaut mieux prendre un bateau, d'ailleurs, c'est encore mieux. Mais, donc, si vous avez vos papiers, vous pouvez regarder déjà au niveau du printemps. Le printemps, c'est une saison qui commence le 5 février. Donc, le 5 février, et non pas le 21 mars. Le 21 mars, c'est le milieu de la saison du printemps. Toutes les saisons qui sont sur les calendriers des poches, hein, toutes les saisons correspondent en fait au milieu des saisons. Ce ne sont pas les débuts des saisons, c'est le milieu. Et ces saisons, en fait, donc le 5 février, ensuite l'été commence le 6 mai, l'été commence le 6 mai, l'automne commencera le 6 août, et l'hiver le 7 novembre. Le milieu des saisons étant l'équinoxe, pour l'équinoxe de printemps pour le printemps, c'est-à-dire le 21 mars, le solstice d'été le 21 juin pour l'été, c'est le milieu d'été, le milieu d'automne, c'est l'équinoxe d'automne, 22 septembre, et le solstice d'hiver, 22 décembre, étant le milieu de l'hiver. Voilà. Et ces saisons, bon, elles ont été inventées, les dates des calendriers ont été mises comme ça, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, c'est un petit peu comme actuellement le changement d'heure. On ne sait plus pourquoi ça existe, mais ça se fait tous les ans. Voilà. Peut-être qu'un jour, quelqu'un dira, il faut arrêter. Je ne sais pas qui pourra le dire exactement. Et donc, on est dans un système solaire. Hein, c'est un système solaire, avec donc des saisons solaires, puisque le soleil en lui-même, le soleil, il débute, le soleil il a une course. Hein. Il a une course, donc le soleil a une course, il est au plus bas le 22 décembre, ensuite il va monter jusqu'au 21 juin, donc 21 juin. Là, il y a peut-être qu'ils vous reverront pas, parce que le tableau est bien dit. Ici, personne ne voit autrement. Et ensuite, il va redescendre jusqu'au 22 décembre. Donc, 22 décembre. Donc, cette course du soleil, c'est ce qui nous permet en rythme chinoise de travailler régulièrement, puisque nous, on travaille en fonction des saisons solaires. Et nous, en regardant sur vos papiers, vous verrez que le printemps, c'est la couleur verte. Toutes les couleurs ont un intérêt. Hein. Printemps, c'est la couleur verte. Vous savez qu'au printemps, l'énergie monte. Et la nature verdit. Voilà. Et c'est ce que les Chinois avaient observé, donc la nature verdit, et donc en verdissant, il y a une saison plus. Là. Donc le printemps, donc l'énergie monte, et cette énergie qui monte dans la nature, elle permet de verdir également, permet aux arbres d'avoir des feuilles, etc. Tout le monde observe ça. Mais en nous-mêmes aussi, l'énergie, elle monte. Et c'est ce qu'on fait enfin, au Qigong, d'ailleurs, le mouvement correspondant au printemps, c'est le mouvement de monter. Donc cette énergie, elle monte au printemps. Et donc le printemps, il est donc entre le 5 février et le 6 mai. Toutes ces périodes, avec un maximum qui va se situer, donc le maximum du printemps va se situer au moment de l'équinoxe. Hein, l'équinoxe, le 20 ou le 21 mars, selon les années, parce que c'est une question d'heure. Donc c'est soit le 20, soit le 21 mars. Donc le printemps sera maximum au moment du 21 mars. Donc on a passé cette période du printemps. Vous savez que le printemps, c'est un moment où normalement le soleil est plus fort, etc. Où on commence à avoir du beau temps, on est content, il y a des petites fleurs, il y a des tas de choses. Cette année, le printemps, il a été un petit peu perturbé. Quand même. On avait pu observer que le printemps a été une période froide. Et bien froide, avec de la neige, de la gelée, etc. Donc l'énergie du printemps n'a pas vraiment monté. Hein. Cette énergie du printemps n'a pas bien monté. Et ça, c'est quelque chose, on en reparlera tout à l'heure, c'est quelque chose d'important et qui nous entraîne des maladies aussi. Alors, que peut-on dire aussi sur le printemps? Le printemps, pour les Chinois, ça correspond à un élément. Là, on n'a pas marqué les éléments sur le dessin, mais je vais vous faire le dessin des éléments pour que vous puissiez les comprendre. Donc ça, c'était le cheminement du soleil et des saisons. Donc, les éléments pour les Chinois, c'est d'abord le bois, qui correspond au printemps. Le bois, c'est le printemps. Ensuite, l'été, c'est le feu. Puis on a le métal, correspondant à l'automne. Et l'eau correspondant à l'hiver. Et dans le cycle des cinq éléments qui a été décrit environ 500 ans avant Jésus-Christ, on a aussi l'intersaison qui correspond à la terre. Et l'énergie, elle va circuler en permanence au niveau des saisons. C'est pour ça que je vous mets ces flèches, et circule en permanence de cette façon-là. Alors on va s'intéresser surtout ce soir au printemps, donc au bois. Le bois c'est quelque chose d'un arbre, il est malléable, hein. On peut le tirer, le pousser, etc. C'est quelque chose qui est vivant, mais que l'on peut quelquefois casser ici. Hein. Donc l'élément correspondant au printemps, c'est le bois. Et pour les Chinois, le bois, c'est aussi la période du vent. C'est la période du vent, le bois. Donc le vent, que les Chinois appellent Feng, c'est tout ce qui... C'est véhiculé, hein. Le vent, il véhicule des pâtés, il véhicule des poussières. Et c'est un peu l'explication aussi des allergies qui nous entraînent à un tas de pathologies de plus en plus importantes, d'ailleurs, chez la plupart des personnes. Donc, le bois, le rôle du vent. Alors, le printemps, c'est également, correspond aussi au niveau des quatre points cardinaux, il correspond à l'est. Vous savez que le soleil se lève à l'est, donc à ma gauche, puis il va monter du sud, de l'ouest. Donc le soleil, c'est toujours une course est, sud, ouest. C'est-à-dire qu'il fait sa course, le soleil va faire sa course du printemps, au sud, le feu, et à l'ouest, le métal. Voilà. Donc, le printemps, en fait, le soleil fait sa course comme ça. Dans la journée, c'est pareil, c'est la même course. On considère que à midi, c'est le feu. À midi, c'est le feu, et ensuite, le soleil va se coucher le soir. Donc, on a. Le printemps correspond beaucoup plus au lever du soleil. C'est le lever. Donc c'est l'est, c'est le lever, et c'est la croissance. C'est la croissance de la végétation. Donc tout ce qui est croissance dans notre organisme correspond aussi à ça. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, par exemple, un enfant qui est en pleine croissance. C'est un enfant qui a donc cette énergie qui monte, qui monte vers le ciel. Un enfant qui grandit, un enfant qui a une croissance normale. Par contre, un enfant qui a du mal à grandir est un enfant, en fait, dont l'énergie a du mal à monter. Et donc, on aura des organes qui vont souffrir. L'organe correspondant au bois, donc au printemps, c'est le foie. C'est le foie qui est l'organe qui va être le plus important en effet visuel, parce que, dans cette période, parce que c'est lui qui va assurer cette croissance. Et le foie est un organe dans notre organisme qui est quand même essentiel. Il est essentiel et il nous donne souvent quelques problèmes. Donc le foie. Le foie, il est considéré par les Chinois comme un vrai bouclier. C'est l'organe qui nous permet de, comment dire, de protéger le système immunitaire. Et s'il protège le système immunitaire, il a un rôle essentiel. Alors, comment peut-on dire? Il protège le système immunitaire, mais surtout à une saison. Vous voyez la saison, si vous regardez vos papiers, la saison où il va protéger le plus, c'est donc entre le 5 février et le 6 mai. Donc c'est une saison où le système immunitaire va être plus fort. Il va être plus solide. Et il y a une chose qui est extrêmement importante, par exemple, qu'on peut d'emblée dire aux personnes, c'est les vaccins, par exemple. Hein, si quelqu'un doit se faire vacciner, bon, c'est pas non plus exagérer, les vaccins, il faut en faire le moins possible. Hein. Mais un vaccin ne doit jamais se faire à la période d'automne et d'hiver. Hein. On peut faire des vaccins, à partir de la mi-février, mais surtout à partir du moment où le foie aura son énergie maximum. Si je reprends le cycle donc du printemps, début du printemps, le 5 février, puis le 22, le 21 mars, maximum du printemps, et ensuite le printemps, bon, il va aller sur l'été, donc le 6 mai. Donc le printemps, là, le moment où le foie va se recharger, va refaire son énergie, c'est à partir du début février. Et il le fait jusqu'au maximum au 20 mars. Ensuite, le foie aura son énergie normale si la saison a été bonne. Hein? Alors, ce n'est pas. Cette année, par exemple, la saison n'est pas terrible. Donc, puisque la saison n'est pas terrible, s'il y a beaucoup de froid, l'énergie du foie a du mal à monter. Donc cette année, on a quand même du mal à avoir une énergie forte au niveau du foie. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est du système immunitaire. Donc, toutes les maladies du système immunitaire vont être plus difficiles à traiter. Mais j'en étais au vaccin. Je vous expliquais pas. Les vaccins, on peut les faire à partir du 20 mars, normalement, puisque c'est une période ou le système immunitaire qui va être solide. Hein? Mais faire un vaccin entre le mois de septembre et le mars, c'est une bêtise monumentale. C'est pour ça que le vaccin de la grippe, par exemple, c'est une énorme erreur. Hein? Ça fait partie des bêtises que l'on fait régulièrement, hein, qui sont faites et qui vont entraîner de plus en plus des pathologies lourdes chez les personnes. Et ça, c'est dommage. Et chez les bébés, par exemple, un bébé qui naît au mois de septembre, il ne faut surtout pas le vacciner avant la fin mars. Hein? Et si on vaccine en ce temps, c'est le meilleur moyen pour qu'il fasse des bronchiolites, pour qu'il fasse plein de choses. Et après, ben, voilà, il se dit, ah ben oui, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est dommage. Parce qu'on fabrique des maladies alors qu'on pourrait très bien ne pas les faire. Parce que rien ne m'empêche de faire un vaccin plus tard. Ouais. Il y a un calendrier, bien sûr, qui est fait, un calendrier vaccinal. Mais ce calendrier, il est fait pour ne pas être suivi. Voilà. C'est comme la pub à la télé, elle est faite pour ne pas être suivie. C'est bien connu. Donc, vous voyez que le foie est un organe donc, qui, je dirais, refait son énergie au cours du printemps. Donc, c'est quand même important. Alors, le foie, il est aussi avec la vésicule biliaire, les deux, hein, c'est foie et vésicule biliaire. Donc, je vais détailler un petit peu les fonctions du foie parce que c'est quand même important. Le foie a plus de fonctions chez les Chinois, pour les Chinois, qu'en médecine occidentale. C'est-à-dire, en médecine occidentale, le foie, à quoi il sert? Il sert essentiellement à fabriquer la bile. Hein, fabrique la bile, et à partir de là, ben, voilà, la bile est mélangée aux aliments et permet de réguler l'intestin, etc. Mais elle ne fait pas que ça. Mais malgré tout, je voudrais vous détailler un tout petit peu à quoi sert la bile, parce que c'est souvent assez mal compris. Alors, je vais effacer ça parce que c'est pas plus facile. S'il y a besoin, je le refais. Alors, c'est pas très bon dessin, hein. Donc, vous allez voir que c'est. Là, je fais le foie. Il n'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Je fais la vésicule. Et du foie, il y a des canaux qui sortent. Et ces canaux vont véhiculer la bile. Donc le foie fabrique la bile. La bile passe dans les canaux. Il y a un canal qui va à la vésicule. Donc là, on a la foie. Là, on a la vésicule. Et la bile, où l'appelle? Donc la bile, elle va d'abord, la bile. Alors, je vais faire des flèches en rouge comme ça. La bile, quand elle est sécrétée, elle va d'abord au niveau de la vésicule. La vésicule est un sac qui contient la bile. Et quand l'estomac, donc je vais faire l'estomac ici, quand l'estomac va vider ses aliments dans ce que l'on appelle le duodénum, l'estomac va vider ses aliments dans le duodénum, eh bien, la bile. La bile qui est donc fabriquée par le foie stockée dans la vésicule va être ensuite éjectée. Elle va être éjectée dans le duodénum pour qu'elle soit à la sortie de l'estomac. C'est-à-dire que quand on mange, supposez, vous êtes en train de manger, vous mangez, les aliments arrivent dans l'estomac. L'estomac, lui, c'est simplement un sac qui brasse les aliments. Il les triture, etc. Mais il est fermé. Alors ici, au bout, là, c'est fermé. C'est le pilore, c'est fermé. Et pour que l'estomac ouvre cette porte, il faut qu'il y ait une certaine quantité de bile. Donc, s'il y a suffisamment de bile, l'estomac va ouvrir en tout grand à la porte inférieure, donc au niveau du pilore. Il va ouvrir complètement et tous les aliments et les liquides vont descendre dans le duodénum. Et après, l'estomac, au bout d'un certain temps, il referme le pylore. Supposons qu'il n'y ait pas assez de bile. Il n'y a pas assez de bile qui arrive ici, donc à la sortie de l'estomac. Pas assez de bile, pourquoi? Parce que le foie n'aura pas fabriqué suffisamment. Ou bien parce que la vésicule fonctionne mal et n'est pas capable d'éjecter, de pousser la bile jusque là-haut, et bien, à ce moment-là, l'estomac va ouvrir, mais très peu. Donc, il y a toute une partie des aliments et des liquides qui vont rester dans l'estomac. Et ensuite, au moindre mouvement, quand la personne se couche, etc., il va y avoir une remontée de liquide acide qui va se faire le long de l'œsophage jusqu'au niveau de la gorge où ça va brûler. Et ça, c'est la fabrication des hernies hiatales. Pourquoi je voulais en parler? Parce que la hernie hiatale, c'est pas l'estomac qui est en cause, c'est le foie. Le foie qui est en cause dans une hernie hiatale. Vous voyez que c'est quelque chose d'important. Et si vous avez des remontées acides le long de l'œsophage, si ça vous arrive d'avoir des remontées acides le long de l'œsophage, ou même que la voie s'éteint par moment parce qu'il y a des giclées d'acides qui se font jusqu'au niveau de la gorge, eh bien, ça vient du foie. Alors, je vais expliquer après comment on régule à ce niveau-là. Il y en a plein qui chassent dans la salle, hein, comment on régule quand on a des remontées acides pour le foie. On parle de dire suffisamment de chicon. Une goutte d'acide, hein, car le foie est l'organe qui aime l'acide, la saveur acide. Et pour bien réguler le foie, pour l'aider dans son fonctionnement, eh bien, on va utiliser la saveur, simplement. C'est-à-dire une goutte de citron ou de vinaigre, si on veut, sous la langue, avant le petit déjeuner. Et si on a vraiment beaucoup d'acide dans l'estomac, une fois que cette goutte, après cet acide a pénétré les veines de la langue, hein, c'est comme si on faisait une perfusion, hein, une perfusion d'acide, de citron, quoi. Eh bien, à ce moment-là, si on a beaucoup de brûlure dans l'estomac, on va recracher cette salive acide. Autrement, les personnes qui n'ont pas trop de brûlure vont simplement l'avaler, mais on peut très bien la recracher pour ne pas emmener le moindre acide dans l'estomac. Alors évidemment, c'est toujours très curieux quand on dit on soigne l'excès d'acide de l'estomac par de l'acide. Hein? Mais c'est la saveur, bien se souvenir de ça. Parce que l'excès après une personne, souvent on dit ah ben, le citron, ah ben oui, je prends un jus de citron. Non, le jus de citron, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la saveur. Hein? La saveur, c'est ce qui pénètre par mes veines. Voilà. Parce que chaque organe dans notre corps a une saveur qui lui est propre. Hein? La saveur du foie, c'est l'acide. Bien se souvenir de ça, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du citron chez soi. C'est comme les petits pois. Voilà. Donc toujours avoir un peu de citron. Donc j'en étais au niveau du foie. Le foie donc fabrique la bile. Mais ça c'est essentiellement ce qui est connu en médecine occidentale. Il y a beaucoup d'autres actions du foie, et en particulier le foie, c'est un organe qui régule le sang. Donc, c'est connu aussi dans les laboratoires de physiologie que le foie nettoie le sang. Il nettoie le sang d'une certaine façon. C'est-à-dire que, pour nous, en médecine chinoise, le foie, on peut dire très simplement qu'il emmène dans la journée, donc pendant la journée, pendant tous les jours, il va envoyer le sang aux muscles et aux tendons. Hein? Donc, il envoie le sang aux muscles et aux tendons du corps entier. C'est-à-dire que si les tendons des orteils, c'est le foie qui va apporter le sang à ses tendons. Pourquoi il va apporter le sang? Il va apporter le sang pour permettre à ses tendons d'être souples. S'il n'y a pas suffisamment de sang, il est apporté au niveau des tendons, le tendon va devenir dur. Et ensuite, il suffira de faire un tout petit mouvement anormal pour que le tendon devienne douloureux. Et ça, c'est l'explication des tendinites. Les tendinites dans le corps, c'est en lien avec le foie. C'est aussi l'explication d'une maladie qui, pour moi, ne devrait pas exister, qui s'appelle la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un ensemble de symptômes qui touchent les muscles et les tendons. C'est lié au foie. qui fait que la fibromyalgie va donner des douleurs partout, partout là où il y a des tendons, hein, plus dans certains que dans d'autres, dans certains lieux que dans d'autres, bien sûr, mais c'est quand même dommage de ne pas faire le lien avec le foie. Et le premier traitement à faire dans une fibromyalgie, c'est la goutte de citron. C'est la première chose. Et les douleurs, d'ailleurs, les douleurs, les Chinois décrivent un feu massif, le douloureux, correspondant au foie, ils l'appellent le pain erratique. Erratique, c'est-à-dire errant. Hein. Quelqu'un qui erre, vous savez, quelqu'un qui va de lieu en lieu, d'une ville à l'autre, il est errant, il n'est jamais au même endroit. Et voilà, les douleurs correspondant au foie, ils se baladent. Elles sont vagabondes. C'est la caractéristique des douleurs du foie. Donc une douleur qui est très fixe, qui est toujours au même endroit, qui ne bouge pas, ça, c'est pas lié au foie. Mais une douleur vagabonde, oui. Mais une douleur des tendons, c'est lié au foie. Toutes les douleurs des tendons. Alors le foie donne aussi, c'est lui qui va régler la vision. Ici, l'œil est en rapport avec l'énergie du foie. Et au niveau de l'œil, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments à l'œil. Il y a toutes les structures de l'œil, il y a aussi tous les muscles et les tendons qui sont autour. Un œil est tenu, il est tenu par des muscles et des tendons, ça se fait directement sous la dépendance du foie. Mais également le foie, c'est l'organe de l'œil, c'est l'organe de défense correspondant au foie. Donc quand toute pathologie de l'œil, de la vision, c'est une pathologie liée au foie. Par exemple, l'hypertension de l'œil, le glaucome, c'est dû à ce qu'on appelle une chaleur du foie, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'énergie in du foie. Et donc, on a besoin à ce moment-là de traiter. Les premières choses que l'on va faire, c'est la chaleur acide. Cette chaleur acide est incontournable pour le foie. Le foie, c'est aussi l'organe qui va apporter le sang et l'énergie aux ongles, à nos ongles. Quand on a les ongles tapants, par exemple, ça veut dire que le foie n'a pas l'énergie qu'il faut. Hein, les ongles tapants. Et donc, à ce moment-là, on va stimuler, bien sûr, l'énergie du foie. Et le foie a une très grande action au niveau du sang, et c'est lui qui régule tout le sang correspondant aux règles. Chez vous, mesdames, les règles sont en rapport avec l'énergie du foie. Quand les règles sont très abondantes, par exemple, très très abondantes dans une année hémorragique, et bien on peut appeler ça un feu du foie, hein, c'est un foie qui est trop fermé de chaleur, et dans le sens inverse, des règles quasi inexistantes, c'est un foie qui n'a pas une énergie suffisante. Voyez. Donc d'un côté, il y a des effets, de côté des manques, je ne rentre pas là-dedans, ça c'est du domaine après celui-ci, mais c'est important de savoir que le foie régule le sang des règles. Le foie est aussi en rapport avec les œstrogènes. Donc c'est quand même important, c'est subtil de savoir, parce que les œstrogènes, par exemple, qui sont utilisés maintenant beaucoup moins, mais dans les traitements de ménopause, les œstrogènes qui étaient utilisés, donc le traitement hormonal substitutif qu'on appelle encore, mais c'est de moins en moins prescrit, moins en moins utilisé, la dose d'œstrogène attaquait directement le foie, donc perturbait directement. Et perturbait d'une façon importante, parce que le foie, c'est l'organe, on peut le considérer comme le commandant cellulaire. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire, commandant cellulaire? Un commandant, c'est quelqu'un qui dirige. Hein, on peut un plus bon, il dirige, il donne des ordres, etc., pour que ça soit exécuté. Eh bien, quand on parle de commandant cellulaire, c'est que le foie dirige, donne des ordres pour que les cellules se multiplient. Vous savez, dans notre corps, les cellules se multiplient. Alors, on va passer de 1 à 2, puis 4, puis 8, etc. Les cellules se multiplient. Et il y a une multiplication qui est ordonnée, mais si le foie est perturbé, il va y avoir une multiplication désordonnée. Et c'est la source des tumeurs, c'est la source des cancers. Donc, le fait d'utiliser par exemple des médicaments qui vont abîmer le foie, c'est une source de problèmes et une source de cancer. Donc, les estrogènes, par exemple, on peut très bien comprendre pourquoi ils favorisent les cancers du sein. Et par le foie. L'alcool favorise les cancers aussi, et par le foie. Toutes les drogues possibles imaginables, il y a beaucoup de médicaments qui vont favoriser les cancers, mais par le foie. Et en particulier, il y en a un qui s'est utilisé énormément, contre lequel je lutte depuis des années, c'est le paracétamol. C'est-à-dire le feralgan, le dépran, le dapralgan, etc. Le paracétamol, c'est sûrement un des pires produits pour le foie, et qui favorise, puisqu'il favorise les ordres désordonnés du foie. Donc, à terme, il va favoriser les cancers. On a eu le scandale des médiateurs, mais dans quelques temps, on aura le scandale du paracétamol. Voilà. Je crois qu'il faut se dire que tous les 10 ans, on a un scandale qui arrive. C'est le prochain. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir, parce que je comprends à la place. Il y a l'aspirine, en fait, qui supporte. L'aspirine est un très bon produit anti-antalgique, qui calme les douleurs, et qui lui a en plus le mérite d'être anti-inflammatoire, donc c'est quand même intéressant. Condition de le prendre en mangeant. Voilà. Et puis, s'il y a une allergie à l'aspirine, on a d'autres produits, comme l'arpagophytone, qui est une racine africaine, qui est quand même active, mais il faut utiliser des doses relativement fortes. Voilà. Arpagophytone, H-A-R-P-A-G-O-P-H-Y-T-U-N. Arpagophytone. Et puis, il ne faut pas oublier dans les douleurs, l'arnica. L'arnica, c'est quelque chose qui est très important. Et surtout, l'arnica a un rôle très important puisqu'il va agir aussi sur le sang, sur la mobilisation du sang. Donc, par exemple, dans une douleur musculaire, tendineuse, etc., eh bien, l'utilisation de l'arnica permet de faire circuler le sang. Donc, comme déjà, c'est une douleur musculaire ou tendineuse, c'est déjà une diminution de la circulation de l'énergie du sang, automatiquement, l'utilisation de l'arnica est tout bénéfique. Et à ce moment-là, selon les douleurs, on va prendre 5 grammes tous les quarts d'heure, toutes les heures, il faut pas hésiter, quoi. C'est des choses qu'on peut prendre, et avec lesquelles on n'aura pas les effets secondaires, comme le paracétamol, par exemple. Si on utilise quand même du paracétamol, parce qu'on a ça sous la main, et que notre foie n'est pas en bon état, et au moment où on va utiliser le paracétamol, prenez une goutte de citron sous la langue, pour que le foie ait une énergie meilleure, et à ce moment-là, il sera moins attaqué. Voilà. Oui, c'est des choses assez simples, qui peuvent nous aider quand même beaucoup. Oui, encore faut-il les savoir. Là, c'est pour ça que je le dis. Donc, vis-à-vis du sang, vous voyez que le foie a un rôle très très important. Donc, pour résumer pour le sang, donc, c'est le jour, il va donc faire circuler le sang, il envoie le sang au muscle tendon, et la nuit, il récupère ce sang, et il le nettoie. Alors le rôle du frère, c'est aussi de nettoyer. Donc il va nettoyer. Et c'est ce qui fait que certaines personnes ont, par exemple, un foie en mauvais état et le foie s'engorge. Il est plein, il a du mal à bien fonctionner. Quelquefois, il peut faire mal, il peut être douloureux. En général, il fait mal à droite. Mais il peut aussi faire mal à gauche. Pourquoi? Alors que le foie est à droite, il peut faire mal à gauche. Parce qu'à gauche, on a aussi les méridiens correspondants au foie. On en a un des deux côtés, de chaque côté. Donc, on peut avoir des douleurs de l'autre côté. Et dans ce foie, quand il est engorgé, quand il est plein, on a besoin de le nettoyer, ce foie. Et en particulier, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait donc des voies biliaires. Hein, les voies biliaires, là que j'ai mises, d'abord des voies biliaires de dérive en noir, et puis avec le sens de circulation en rouge, eh bien ces voies biliaires, elles peuvent être entrachées. Vous avez bien entendu parler des calculs, hein, les fameux cailloux qu'on peut avoir dans les voies biliaires, en particulier dans la vésicule. On peut avoir des cailloux. On peut en avoir le long aussi des voies biliaires. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que n'ayant pas ces énergies, et c'est comme une rivière, il n'y a pas assez d'énergie là en ce moment, il n'y a pas de problème. Hein, ça véhicule toutes les saletés, les troncs d'arbres et tout ce qu'on veut. Mais l'été, par exemple, le courant, il est arrêté par des branchages, par des choses hein, qui font là sur la circulation. Et bien, donc ça s'arrête, la circulation s'arrête, elle se ralentit, il fait des calculs. Et les voies biliaires, c'est jamais qu'un tuyau, c'est un tuyau de lavabo, hein, c'est pareil. Donc, si ça crache, ça va se boucher. C'est pareil. Alors, et ça mérite d'être débouché. On a besoin de déboucher. Alors, on a plusieurs possibilités. La première que j'aime bien donner, c'est l'utilisation du citron d'huile d'olive. C'est-à-dire qu'on va, un quart d'heure avant le petit déjeuner le matin, prendre le jus d'un demi-citron, mélangé à une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on mélange bien et on le prend un quart d'heure avant le petit déjeuner. C'est l'idée stop. C'est l'idée stop. Ça permet de faire un nettoyage des voies biliaires. Et donc on nettoie toutes les voies biliaires à ce moment-là voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un demi-citron. Et c'est bon. Au goût, c'est bon. Alors, pendant combien de temps le fait-on? Si on a la conscience d'être encrassé, on va le faire 3 jours de suite, voire plus si on veut, hein, il n'y a pas de danger. Donc, on fait 3 jours, et puis ensuite, à ce moment-là, une fois par semaine. Et ça nettoie très bien. Et si dans la salle, il y en a qui ont déjà été opérés de la vésicule biliaire, ça veut dire que ces personnes-là avaient des calculs dans la vésicule. Donc avaient une vésicule qui n'arrivait plus à pousser la bile suffisamment, donc c'est devenu détaillé. Eh bien, le mécanisme, c'est pas parce que vous avez été opéré de la vésicule que le problème est terminé. Il est le même. Donc, ça veut dire que les voies biliaires ne sont pas capables de pousser suffisamment bien la bile. Donc un jour ou l'autre, vous allez refaire des calculs dans les voies biliaires, et là, ça sera bien plus grave. Vous voyez? Parce que là, ça sera dans le cholédote que ça va être touché, ça va. Vous voyez, c'est pas un beau tableau que je vous l'aime. Mais c'est le mécanisme. Donc, si vous avez préparé de la vésicule, ce traitement avec le citron et l'huile d'olive sera à faire vraiment impérativement toutes les semaines, une fois. Parce que ça permet à ce moment-là de nettoyer l'ensemble des voies biliaires. Toutes les semaines, dans ces cas-là, parce que le problème, il reste en cours. Hein? Tout à fait, parce que l'acidité ne pourra être améliorée que par le foie. Et si le foie fonctionne mal, de toute façon, les terrains acides ne pourront pas s'améliorer. Hein? Et le fait de prendre un demi-citron dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, ne va pas créer d'acidité dans le corps, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Car le citron est un antiacide. Hein? C'est quand même un antiacide. Il capte les acides, il élimine les acides. Donc, c'est un acide au goût, mais c'est un antiacide. Donc, vous voyez, au niveau du nettoyage, c'est important. Après, on peut utiliser aussi des décoctions, on peut utiliser plein de choses. Bon, là, j'en reste à des choses plus naturelles. Le foie, il a ici d'autres actions. Le foie, il est capable, vous avez vu, vous avez entendu tout à l'heure, je disais que au moment du printemps, l'énergie monte. Eh bien, le foie, c'est l'organe qui fait monter l'énergie, mais aussi qui l'étend, qui la distribue un peu partout, cette énergie. C'est-à-dire que le foie, c'est le seul organe dans le corps qui va pousser l'énergie dans tous les autres organes et qui va agir partout. C'est ce qui fait que, à partir de là, les Chinois nous disent que psychologiquement, le foie, il a besoin d'espace. Il a besoin d'espace. C'est-à-dire que lui, le foie, il n'aime pas être compressé. Donc quand on est stressé, quand on est tendu, Quand vous avez le voisin, la voisine, le mari, la femme, les enfants, les parents, le patron, qui vous pressure, à ce moment-là, le foie, il est attaqué. À ce moment-là, il n'arrive pas à faire normalement son action, ses différentes actions. Donc quand un chef d'entreprise ou un employé dans une entreprise est perpétuellement agressé par son employeur ou par ses clients aussi, qui l'agresse en permanence, le foie ne peut plus avoir cet espace de liberté. Et donc, lui, il va souffrir. Et qui fait que des maladies vont apparaître. Après, on se dit, pourquoi cette personne déclenche un cancer? Pourquoi il se met à avoir des douleurs partout, des tendons, des muscles, etc. C'est l'origine des fibromyalgies, ici. Hein? Pourquoi le foie, à ce moment-là, n'arrive plus à prendre son espace? Donc le foie, il a besoin de cet espace. Et s'il n'a pas cet espace, il va être frustré. Donc la personne à ce moment-là est frustrée, tendue. À un moment donné, car le foie, c'est aussi l'organe de la colère va commencer à monter et ça va tout casser à un moment donné. Et ça, le foie est capable chez une personne de tout casser. C'est une personne qui fait, comme on dit, fait ses plombs, et bien, c'est l'origine. Deux fois. Donc, vous voyez, à partir du printemps, c'est ce qu'on peut dire. Bon, pour les actions du soir, je vais en rester là. Il y a pas de choses à dire. Mais je voudrais quand même qu'on parle de l'alimentation aussi. Cette alimentation correspondant donc en médecine chinoise, on parle pas mal de l'alimentation. Je vais vous en donner des grandes lignes et puis je vais indiquer surtout un certain nombre d'aliments qui peuvent être intéressants dans cette période-là, en fonction aussi de notre tempérament. Alors, on a on peut classer les aliments en gros selon deux catégories. Selon la nature, selon leur nature et selon leur saveur, les aliments. Alors, la nature des aliments, là, on aura besoin, pour la nature des aliments, selon le tempérament des personnes, on va avoir plus besoin de certains aliments que d'autres. première chose qu'on peut dire, quelqu'un qui est toujours réchauffé. Quelqu'un, c'est un chaud en général, hein, qui, voilà, il y a des personnes qui sont des personnes réchauffées, qui n'ont jamais besoin de se couvrir beaucoup, qui, voilà, dès qu'elles sont couvertes, ont froid, dès qu'elles sont couvertes, elles vont transpirer, on les voit souvent en bras de chemise, vous en connaissez comme ça. Donc ce sont des gens en principe qui sont hyperactifs aussi cela. Et donc ceux-là, qui ont besoin d'aliments qui vont diminuer, qui vont faire diminuer un peu leur yang, cette énergie yang, c'est-à-dire l'énergie du sel. Voilà. Ils ont besoin de faire diminuer cette énergie. Et les aliments qui vont leur permettre de diminuer, par exemple ces céréales, ça va être le blé. Le blé va permettre de faire diminuer cette énergie. Et comme viande, c'est le canard qui va permettre, comme viande, de faire diminuer cette énergie-là. Et en légumes, le chou pomme. Et comme fruit, surtout la pomme. Donc c'est essentiellement des produits de région, parce que c'est important d'avoir aussi des produits de région. Les fruits peuvent, il peut y avoir aussi des oranges, il peut y avoir, c'est pas un produit de région, mais il y a aussi tous les fruits rouges qui peuvent aider à quand même à diminuer cette énergie là. Un chou pomme. À l'opposé, quelqu'un qui a toujours froid. Quelqu'un qui a toujours froid, qui est toujours frigorifié, frileux, et bien il a besoin d'aliments chauds. C'est-à-dire que là, les chauds, c'est des aliments qui auront chauffé et qui sont chauds. C'est-à-dire que ceux-là, il ne leur faut pas de crudités, ni d'aliments froids. Il ne faut pas manger les aliments qui vont juste sortir du frigo. Il faut les réchauffer d'abord. Et après, si on aime quand même les crudités, et si ça peut faire plaisir, et bien à ce moment-là, on prend les crudités, on les met dans un wok, c'est ce plat chinois là, dans un wok à feu très vite pendant 2 minutes. Et on essaie de chauffer, on les frappe bien, de façon à ce qu'ils soient chauds. Mais ça reste des crudités, mais c'est chaud. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de problèmes. Et c'est la personne qui va capter cette chaleur pour pouvoir ne pas avoir ce froid. Et cette année, vous allez observer que le printemps est froid. Donc, on a besoin de ça. Donc, les crudités sont vraiment froides, là, attention. Si on est déjà frileux, c'est quelque chose qui va augmenter la frilosité. Et ne vous attendez pas cette année à avoir beaucoup de chaleur. Car pour les Chinois, cette année, c'est un feu vide. Donc, feu vide, c'est un soleil qui est moins important que d'habitude. On l'a déjà vu. Il est déjà beaucoup moins important. Mais en été, c'est pas pareil. On aura bien quelques journées chaudes, mais quelques-unes, mais pas beaucoup. Comme tu dis, pas beaucoup. Voilà. Alors, si au lieu d'être complètement frigorifié, on est quelqu'un qui a besoin d'une certaine chaleur, mais bon, sans trop, voilà. Ce qui est la majorité un petit peu des personnes. À ce moment-là, on va plutôt prendre des aliments tièdes, mais il y a des natures d'aliments qui sont tièdes en elles-mêmes. C'est la poule, le vinaigre, le persil. Ce sont vraiment des aliments de nature tiède. Et dans les céréales, le blé est aussi un aliment à la fois calme les effets de chaleur, mais c'est aussi un aliment faible, n'importe quoi. Alors, quelqu'un qui est très fatigué à cette saison, qui est très fatigué, à cette saison, donc il manque d'énergie. Eh bien, c'est là, on a besoin d'aliments plutôt de nature neutre. Et dans les céréales, les aliments, les céréales intéressantes, c'est le boulgour, l'avoine, l'épeautre, et le couscous. Le couscous, très intéressant comme nature saine, nature neutre. Le quinoa, oui, le quinoa. Alors ça, c'était la nature des aliments, et maintenant leur saveur. Selon leur saveur, l'énergie qui monte au printemps, donc c'est une énergie qui est progressive, on sait bien, on le voit actuellement, ça pousse, mais doucement, tranquillement, voilà, ça monte. C'est léger, comme on dit là à droite. Et donc cette énergie, elle monte, c'est quelque chose qui monte très doucement. Eh bien, on a besoin d'aliments qui puissent faire monter l'énergie en nous, mais progressivement. Un peu comme si on montait un peu tortueux, quoi, légèrement, mais toujours en étant vers le haut. Et c'est pour ça, la saveur intéressante, c'est la saveur douce. Bon, la dernière fois, je m'avais fait les papiers correspondants aux aliments. Vous vous souvenez, il y en a certainement que vous devez avoir. Ces papiers, là, ces tableaux. Donc, ils pourront peut-être être refaits à un moment ou à l'autre, si vous voulez. Donc, dans les aliments de nature douce, il y a une quantité, vous pourrez vous les passer, c'est la colonne où il y en a le plus. Là. Alors, je vais simplement vous en donner quelques-uns comme ça, et puis éventuellement, par la suite, on pourra peut-être refaire le papier. Alors, en légumes, je vais vous les énumérer, comme ça. En légumes, les algues, les carottes, le céleri, le brocoli, les épinards, les haricots verts, les pommes de terre, les navets. Vous voyez, ce sont des aliments que l'on utilise régulièrement. Comme légumineuses, les haricots blancs, les mauvaises, les haricots noirs, les haricots rouges, les lentilles, les céréales, l'avoine, le riz, le sarrasin et le blé. Vous voyez, on a le choix quand même. Comme fruits, l'ananas, l'amande, la banane, la date, la figue, la mangue, la mandarine, le melon, l'orange, le pamplemousse, voyez. Les viandes et les poissons, crevettes, l'huître, le cabillaud, l'agneau, le bœuf, la caille, le mouton. Et on a aussi d'autres aliments tels que les huiles, en particulier l'huile d'arachide et le thé vert. Sont donc des aliments de saveur douce. Oui. Non, parce que c'est plus la température de l'aliment. C'est la température de l'aliment qui va être importante. Alors, dans la température de l'aliment, juste un mot, il ne faut pas que les aliments soient cuits à haute température. Et la température que l'on ne doit pas dépasser, c'est en gros 110 degrés dans un four. 110 degrés dans un four. Donc ça nécessite de cuire plus longtemps. Alors il y a des cuisines, des aliments qu'on ne peut pas faire à 110 degrés, bien sûr. Mais d'une façon générale, il faut vraiment se tenir à des températures pas très hautes, car le corps ne supporte pas des températures excessives. La chaleur douce, c'est pour faire monter, décrémenter cette énergie du printemps. Alors quand on est fatigué, elle est très utile aussi, cette chaleur douce. Parce que cette énergie, au printemps, on a une énergie qui survient après l'hiver. L'hiver étant une période où l'énergie est basse. Et ensuite, cette énergie est justement qu'à monter. Pas au même moment. Non, mais on peut très bien utiliser le tamar et le mouton, il n'y a pas de problème. Mais si on tient compte des natures et des saveurs, on a ces besoins-là. Hein. Quand il y a des variations de température, par moment, il y a un froid, quand il fait chaud, quand il fait froid, il y a des choses. Oui, à ce moment-là, il faut surtout prendre des aliments de nature tiède. Hein? De nature tiède et de saveur neutre. Pour que véritablement, il y ait un équilibre dans l'alimentation. Alors, avant de passer aux questions, je veux parler un petit peu du feng shui, certaines choses en feng shui. De certaines choses en feng shui, on en avait parlé un petit peu au mois de janvier, de ce feng shui, donc de l'étude des maisons. Bon, ça ne fait pas partie, a priori, du printemps, de la saison. Hein. Mais je voudrais simplement vous parler de deux choses. Pour l'énergie des maisons. C'est-à-dire des énergies qui sont nuisibles d'un côté et des énergies qui sont saines. Donc, il y a des énergies qui vont être nuisibles et qui seront toujours nuisibles si on ne fait pas attention, et des énergies qui sont saines. Les énergies saines, c'est celles qu'on veut quand même. En principe, quand on achète une maison ou quand on fait une maison ou quand on achète un terrain pour mettre une maison, on cherche quand même à avoir quelque chose dans lequel on soit bien. Hein? Enfin, je pense qu'il y en a qui cherchent à avoir des niveaux dans lesquels ils sont mal. Je ne crois pas. Hein? Mais quelquefois, par ignorance, on peut très bien faire quelque chose qui ne soit pas bon. Alors, je vais commencer par les énergies nuisibles. Hein? Donc, ces énergies nuisibles, il faut s'en protéger. Alors, c'est ce que les Chinois appellent les flèches empoisonnées. Les flèches empoisonnées au niveau d'une maison, ils ont un nom d'ailleurs qui s'appelle Char Chi. Bon, c'est un nom chinois, c'est équivalent de malchance. Hein. Alors, il y a deux choses. Il y a les flèches empoisonnées qui peuvent être en dehors de la maison et celles qui sont à l'intérieur de la maison. En dehors de la maison, ça va être, par exemple, par rapport aux routes. Si dans une... Là, je vais faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Par rapport à une route. Supposons que la maison, mettons ma maison est, voilà, est ici. Voilà. Là, c'est la maison, ou l'implantation future d'une maison. Et vous avez, par exemple, une route qui passe devant votre maison. Et la porte de la maison va être, par exemple, ici. Et vous avez une route qui va donner directement en face. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire que cette route va tout de suite envoyer une flèche empoisonnée dans la maison. Et ça, c'est inhabitable. Alors, vous pouvez habiter la maison, mais vous aurez toujours des problèmes. Ça se passera toujours mal à l'intérieur. Les personnes ne s'entendront pas. Les maladies seront fréquentes. Et donc ça, à supprimer. Si une maison est construite comme ça, c'est bon. Oui, pareil. Pareil, parce que le sang. Mais c'est plus important qu'on imagine. Parce que même s'il y a un stop ici, l'énergie, elle n'appelle pas. L'énergie ne connaît pas le stop. Ça, c'est très, très perturbant. Hein? Et ne jamais faire des choses comme ça. Une autre possibilité qui peut exister, donc je supprime ça. Une autre possibilité, c'est une. On peut avoir une route devant, hein, donc à toujours la porte au même endroit, et des routes de chaque côté. Ah. Oui. Et bien, l'énergie, elle tourne. Hein? Elle tourne. Et ce sera une énergie. Vous aurez tourné à l'intérieur. Hein? Alors, c'est une énergie qui va être beaucoup trop rapide et qui va donc être extrêmement perturbante pour les personnes. Ils ne pourront pas dormir. Hein?
Même si on met la porte de l'autre côté.
Parce que là c'est vraiment sur les côtés là. Hein. Oui, par rapport aux routes, c'est. Oui.
Si au lieu de la route, c'est de l'eau.
De l'eau. C'est pareil. C'est pareil, oui, je n'employais pas, mais si c'est une rivière, si vous avez une rivière de chaque côté, c'est exactement la même chose. Hein. À quelle distance de la maison? Alors ça c'est. Ça dépend. Ça peut être proche, si c'est à 300 mètres, ça va. Hein, mais si c'est à moins de 50 mètres, là, c'est pas bon. Ah, bah oui, ça tourne. Ah, oui.
Il n'y en a que deux,
et ça peut être bon. Hein, s'il n'y a que deux routes, c'est bon. Si on n'a que deux routes de chaque côté, ben ça va. Si c'est un chemin piétonnier, il n'y a pas de problème. Ah ben oui, ce sont des routes sur lesquelles passent les voitures. Voilà. Si ce sont des chemins piétonniers, il n'y a aucun problème. Mais dans les constructions, même dans des lotissements, c'est des choses, il y a besoin de faire attention. Quand on prévoit le lotissement, c'est des choses à regarder. Si on veut que les gens soient quand même bien dans les maisons, c'est important.
Donc ça, c'est pour les routes.
Maintenant, il y a des flèches empoisonnées par rapport au terrain lui-même. Un terrain, par exemple, qui est en pente. Hein, vous avez un terrain en pente. Supposons que voilà, je suis sur la route, le terrain est en pente, mon terrain est en pente, vers le fond de la salle, et je veux construire ma maison là-bas au milieu de la salle. il y a 2,50 m entre la route et l'endroit où déconstruire ma maison. Ça, c'est déjà quelque chose de difficile. La seule chose qu'on peut éventuellement faire, c'est faire une maison à étage pour que les chambres soient au-dessus du niveau de la route. Mais autrement, ces terrains-là, il vaut mieux les éliminer, les faire tomber, les laisser tomber. Parce que c'est la fille de la maison, à ce moment-là, parce que la fille de la maison, en fait, c'est le derrière de la maison. C'est là où la maison s'appuie. Elle va s'appuyer dans le vide. L'idéal, c'est d'avoir plutôt un terrain légèrement en pente, mais dans le sens. Là, la fille de la maison sera solide sur quelque chose. Il ne faut pas que la route soit plus haute que la maison. Hein, que même le réchauffé de la maison. Tout ça, ce sont des. Ça n'interdit pas de le construire. Mais par contre, on sait que l'énergie sera difficile à l'intérieur. Comment ?
Et donc tu n'as pas.
Non, on n'a pas de problème. Donc je n'ai pas ce. Non, ce... Alors, autre chose qui peut être gênante, c'est si vous êtes à côté, si vous construisez que dans l'endroit à côté, tout près, vous avez un énorme bâtiment, quelque chose de très important, qu'il soit de l'autre côté de la route, par exemple, un grand bâtiment, une usine, un port, une tour, etc. Là, c'est toujours quelque chose qui va absorber l'énergie de la maison. C'est pas bon non plus. Donc on n'a pas intérêt à avoir. Oui. Un château d'eau, oui, c'est pareil. Il faut qu'il y ait de la distance. Pour que cette énergie ne soit pas mauvaise, en fait, il faut bien une trentaine de mètres. En quelquefois, c'est compliqué parce qu'on est dans des zones où les maisons sont proches de bâtiments très importants. Oui. Comment ? C'est pareil. C'est pareil. Avec une église, c'est pareil. Bon, si on a, en principe, autour de l'église, il y a bien quand même une cinquantaine de mètres. Mais pas toujours. Oui, non, mais à Échiré, c'est vrai que c'est assez proche. Mais par rapport à la porte d'entrée de la maison, il faut bien. Voilà. C'est-à-dire que c'est. Voilà. Si l'église est située là, si l'église est située ici, donc là, ça va. Porte d'entrée là. Mais bon, quelquefois, c'est compliqué. Voilà. Et alors, une chose aussi qui est importante, on évite, et ça, c'est difficile, en particulier dans les lotissements, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est lorsqu'une maison à côté vous envoie une flèche empoisonnée. C'est-à-dire, quand vous avez une deuxième maison qui se construit, et que la deuxième maison va se situer, par exemple, ici, et c'est pas plus rare que ça, et que l'angle de la maison sent un angle aigu, et c'est une flèche qui va aller directement entrer dans votre maison. Donc il faut se protéger de ça. Alors, il y a des façons de se protéger, et un bon moyen, c'est de mettre un arbre. Vous voyez ? Mettre un arbre qui puisse protéger de cette flèche. Voilà. Il faut inventer des choses. Alors, quelquefois, on peut utiliser un mur de mi-échi. Et voilà. Et quelquefois, on a on a la construction, et puis ben, ça en a été acheté par quelqu'un d'autre, et il y a une construction qui se fait, on ne sait pas forcément tout ça. Mais il faut vérifier que cet angle aigu ne pénètre pas directement dans le port d'entrée. Parce que là, vous avez peut-être l'impression que ça va buter dans la porte d'entrée, mais en fait, ça va pénétrer et ça va inonder toute la maison. Hein? Ah non. Bon, là, chez l'autre, sauf si l'autre a sa porte d'entrée ici, hein, à ce moment-là, oui. Hein? Les arbres peuvent faire une barrière. Pour les routes, c'est compliqué. Les arbres, un peu pas trop. Quand il y a des routes, comme j'ai indiqué tout à l'heure, non, il faut pas très vite. Les fenêtres, oui. Mais là, après, plutôt à l'intérieur des pièces. C'est l'énergie à l'intérieur des pièces par rapport aux fenêtres. Mais par rapport à ces manifestations-là, non. Hein? C'est plus la porte d'entrée. Alors, après, il y a les flèches que l'on a à l'intérieur des maisons. Donc, à l'intérieur des maisons, c'est quoi les flèches? Il y a deux sortes de flèches à l'intérieur des maisons. Vous avez à la fois. Vous avez les poutres dans les maisons anciennes, hein, qui sont des flèches empoisonnées. Et là, c'est là où on va dormir, là où on va travailler, il faut voiler ces poutres. C'est-à-dire, si vous mettez un bureau, où vous travaillez très régulièrement et que vous avez des poutres au-dessus, et bien là, il faut mettre un voilage, mettre quelque chose, juste pour que les poutres ne soient pas opérationnelles. Hein? Pareil, au-dessus d'un lit, les poutres sont très perturbantes et elles vont automatiquement gêner le sommeil. Donc, on met à ce moment-là une commande. Pas compris. Du lambris. Oui, on peut mettre du lambris, mais. C'est aussi ce qui se mettait, des voilages, hein, des ciels de lit, c'était ça, les ciels de lit. Ciels de lit dans les maisons anciennes, voilà. Oui. Ça permettait ça. Et alors, autre flèche empoisonnée dans une maison, ce sont tous les angles aigus. Hein, tous les angles aigus. Bon, par exemple, cette table, elle n'a pas un angle aigu. Hein, donc, vous voyez, elle est arrondie. Donc, voilà. Donc, ça. Voilà, il faut obtenir une table avec un angle aigu, ou une fois dans une maison, vous avez, des endroits qui peuvent être, voilà, c'est un endroit comme ça, là, par exemple, ici. Là. Ça, c'est un angle aigu. Hein? C'est un angle aigu. Donc, cet angle-là, si vous devez travailler chez les humains à côté, par exemple, eh bien, ça, il faudrait l'arrondir. Donc on met à ce moment-là quelque chose qui l'arrondit. Vous savez, il existe des... Je commence à s'appeler... Des baguettes spéciales qui l'arrondissent. C'est des choses toutes simples, et qui permettent d'équilibrer, d'harmoniser l'énergie dans une maison. Parce que si notre énergie n'est pas harmonisée, après, on est pas sûr de ça.
Est-ce qu'un rideau sur un angle
saillant,
est-ce qu'on peut mettre simplement un rideau sur l'angle?
Oui, oui, oui. Un rideau protégera d'une énergie négative. Voilà. Ce que j'expliquais l'autre fois aussi, devant une télé, par exemple, devant un écran de télé, vous mettez un rideau pour que l'écran de télé ne soit pas perturbant pour vous si vous vous reposez dans la même pièce. Voilà. Enfin, la télé, il vaut mieux la mettre ailleurs que dans une chambre. Hein? De même que l'écran d'ordinateur. Donc ça, c'est en gros toutes ces flèches négatives, là, ces flèches empoisonnées, qui sont quand même perturbantes, qu'il faut y marcher. Et ce sont des choses, une fois qu'on y pense, qui sont des choses toutes simples à mettre en place. Qui après, voilà, ça fait partie du décor. Mais, hein. Et alors, l'énergie positive, comment doit-elle être? C'est ce qu'on appelle Shenshi. C'est également, Shenshi, ça veut dire aussi défense de l'énergie. Eh bien, on a toujours intérêt à ce que ce soit une naissance d'énergie, toujours une énergie positive qui nous pénètre. Alors, donc d'abord, bien sûr, pas avoir le rouge qui soit trop intense, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'idéal pour un terrain, en fait, quand on veut construire une maison, l'idéal pour un terrain, c'est un terrain un peu vallonné. Il peut y avoir des petits buts. Ça, c'est une très bonne énergie pour une construction. Et dans une maison, alors il y a une chose qui est très facile à comprendre. Il faut que l'énergie circule librement, mais doucement aussi. Donc j'étais à une maison. C'est une grande maison. Alors, avec un certain nombre de pièces, on va faire des petites pièces, voilà, une pièce ici. Donc, voilà, mettons des pièces différentes. Voilà. Et l'énergie ici, elle va circuler à ligne droite. Si vous avez si dans cette pièce, celui-là, vous avez vous avez une énergie qui ne s'arrête pas, si vous voulez. Hein. Vous avez des portes partout, des pièces. Bon. En principe, une maison n'est pas comme ça. Hein. Du tout. Hein. Une maison n'est pas comme ça. Mais ça, ça serait très mauvais. Mais on voit quelquefois des ventilades comme ça dans des maisons. Il y a des ventilades. Et une chose qui est quasiment comme une enfilade, c'est l'habitude actuelle qui devient une mode de faire tomber toutes les cloisons dans une maison, d'avoir d'immenses pièces. Il y a la plus d'entrée, plus de cuisine, plus de salle à manger, plus il n'y a plus rien, tout est la même pièce. C'est une énergie qui rentre et elle va jusqu'au bout. Et bien là, pour se reposer, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, c'est une énergie qui ne peut pas être harmonieuse. On a besoin dans une maison d'avoir une énergie qui circule tranquillement. Voilà. L'idéal dans une maison, c'est une énergie qui va circuler tranquillement, qui va passer d'une pièce à l'autre. Je fais ça bizarrement, mais hein, avec des séparations, voilà, par exemple. Donc ici, ici une, voilà. Enfin bon, hein, vous voyez un petit peu de quoi il peut s'agir. Avec une porte là. C'est-à-dire qu'une énergie qui va tranquillement circuler et qui va prendre du temps. Hein. Là, elle va s'asseoir, cette énergie. Elle va se poser. Et donc, il n'y aura pas d'énervement dans la maison. Non, pas obligé, de toute façon les portes s'ouvrent à un moment ou à un autre. Mais dans une maison, il faut prévoir ça. C'est-à-dire qu'il faut prévoir une entrée, une cuisine, des chambres. Voilà. Et tout ça, ce sont des pièces séparées. Et non pas d'immenses pièces dans lesquelles on fait tout à la fois. Ça, c'est quelque chose qui est mauvais au niveau de l'énergie. Mais ça devient une mode. Et c'est pas bon pour la santé. Même avec des portes. Oui. De toute façon, l'énergie, elle circule. Hein. À partir du moment où il y a une ouverture, ça circule. Donc, vous voyez, ce sont des choses simples qui nous permettent d'avoir comme ça une énergie bien élevée. Bon, je vais en rester là. Si vous voulez poser d'autres questions sur l'enfant, sur autre chose.
Oui. On va mettre là en route pour les réponses.
D'accord.
Donc, c'est celui-là que je vais prendre.
Bon.
Oui, il fonctionne.
Et il y en a qui ont des questions ?
Donc, un équipement où il se trouve un transformateur tout près des habitations. Une section en même temps les antennes relais. Sont pas loin de l'habitation et les lignes haute tension qu'on ne voit plus mais qui passent tout près des habitations, qui passent sous le couloir, est-ce que c'est une incidence sur un choix de construction par exemple?
Oui. Là vous entendez bien comme ça là?
Non.
Non.
C'est ça qui va pas là.
Comme ça. Là, oui. Ah oui, c'est bon. L'autre fonctionne aussi. Donc, les antennes relais, les châteaux d'eau, etc., ça, c'est mauvais, ce sont des flèches empoisonnées. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas tolérer ça proche d'une habitation. Hein. Les lignes haute tension qui passent en souterrain, ça, bon, déjà, en souterrain, c'est moins important qu'en aérien, ça c'est sûr, mais malgré tout, c'est quand même perturbant.
Poser une question par rapport au paracétamol pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur donner à la presse du paracétamol?
De l'aspirine.
De l'aspirine aussi. Même mais, pour les petits.
Bien sûr. Bien sûr, il existe d'ailleurs l'aspirine nourrisson. C'est très bien. Hein. Et voilà. L'aspirine a été un peu mis de côté parce qu'il y avait eu des accidents à une époque. Mais vous vous souvenez sûrement, il y en a un certain nombre ici qui doivent se souvenir de la juvépirine. La juvépirine était de l'aspirine en dragée, hein, et dans des petites boîtes qui ressemblaient un peu à des boîtes de bonbons. Et c'était des dragées qui ressemblaient vraiment à des bonbons. Il y a eu des accidents à cause de ça. Et ce qui a fait que, bon, on a dit, plus d'aspirine chez l'enfant, etc. Et puis tout doucement, c'est bien à faire autre chose, prendre autre chose, mais l'aspirine chez l'enfant pose aucun problème. Alors, il existe bien sûr quelques allergies à l'aspirine, des allergies importantes, mais ça on le sait dès la moindre prise d'aspirine, et là effectivement, il faut en utiliser. Hein. Mais ça, c'est pour tout produit. Hein. Condition de prendre toujours la précaution avec l'aspirine, de la prendre en mangeant. Et si on veut, chez un adulte, que l'aspirine agisse très vite, il faut la prendre avec du café. Et ça augmente très très rapidement l'efficacité de l'aspirine. D'ailleurs, il existait l'aspirine caféinée. Voilà. Qui n'existe plus.
Et c'est là, on arrive mi-avril, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de parler de l'été?
Avant l'été, il y a l'intersaison. C'est-à-dire qu'à partir du 18, là, du 18 avril, on a l'intersaison. Hein, qui est une saison, donc que vous pouvez voir sur votre papier, sur votre dessin. Entre le 18 avril et le 6 mai, donc il y a une saison qui permet, l'intersaison, de passer à la saison suivante. Donc les Chinois nous disent, à cette saison-là, l'intersaison, en fait, c'est le moment où on devrait tous aller voir le médecin pour nous faire équilibrer. Hein. C'est le moment où on prépare la saison suivante. Voilà. Et c'est le bon moment, en fait, de traitement. C'est un moment aussi de nettoyage. Voilà. C'est un moment où on va faire une alimentation particulière sans aucune viande et sans aucun produit laitier. Aucune viande, aucun produit laitier, ce qui permet de nettoyer l'organisme, en particulier nettoyer l'intestin grêle. Et à ce moment-là, on aborde la saison suivante, qui va être l'été, à partir du 6 mai, qui sera la saison du cœur. Et bien, à ce moment-là, on abordera cette saison avec un corps beaucoup plus en équilibre, beaucoup mieux nettoyé, et donc, voilà. Bon, c'est vrai que les saisons, bon, c'est pris un petit peu tard, mais bon, c'était des questions de date aussi. Hein. Voilà. Mais vous avez raison. Oui. Ah. C'est d'abord. Ah. Pour les enfants, oui, oui. L'enfant, c'est comme l'adulte. Oui, oui. Et c'est valable aussi pour les animaux. Hein, les troupeaux de bovins, de chèvres, de moutons, c'est pareil, ils sont pareils dans la nature, au niveau des saisons, c'est exactement pareil. Hein? Les bienfaits ou les méfaits des produits laitiers. Notre intestin grêle n'est pas capable de laisser passer correctement les produits laitiers. Hein, surtout chez l'adulte, chez l'enfant, ça pose pas trop de problèmes jusqu'à 3 ans. Mais après, on a beaucoup de problèmes. Et les produits laitiers, en particulier bovins, nous perturbent quand même la paroi de l'intestin grêle. C'est ce qui fait que, si, il n'y a pas que les produits laitiers, il y a aussi le gluten. Hein, d'ailleurs le pain blanc, etc., qui perturbe la paroi d'intestin grêle. Ce qui fait qu'on déclenche un certain nombre de maladies ensuite, et en particulier toutes les maladies auto-immunes qui sont très nombreuses actuellement. Et beaucoup de personnes, par exemple, se disent allergiques au gluten, mais en fait, ce sont plus des intolérances. Pourquoi ? Parce qu'elles ont perturbé la paroi de l'intestin grêle. Et en ayant perturbé cette paroi, ils ne peuvent plus absorber correctement tous ces produits. Voilà. Donc les produits laitiers, c'est à laisser aux enfants jusqu'à 3 ans, mais après, comme tous les mammifères, on n'a pas besoin de produits laitiers. Alors, pour l'ostéoporose, pour le calcium, c'est les mêmes questions. Les produits laitiers ne nous apportent rien après l'âge de 3 ans. Ils ne nous apportent pas de calcium. Plus vous prendrez de produits laitiers, plus vous éliminerez le calcium de vos os. Le calcium qu'on absorbe, véritablement, c'est le calcium des fruits secs, le calcium des légumineuses, des céréales, mais vous n'aurez pas de calcium avec les produits laitiers. Plus vous en prendrez de produits laitiers, et moins vous aurez de calcium dans vos os. Oui. Transformé comment? Ah oui, mais on peut très bien manger du fromage, on peut très bien manger, il est transformé, mais on ne va pas tirer le calcium de ces produits-là. Il perturbe de toute façon la paroi de l'intestin grêle. On a une paroi qui est fragile.
Est-ce qu'on prend la place, non?
Des fruits secs.
Non, mais à la place du lait matin pour déjeuner, à la place des yaourts, à la place du
jardin,
des légumes.
On peut très bien, dans un potage, on met les céréales dans le potage, on met les céréales dans du thé, on met les céréales dans tout ce qu'on veut. Hein? Le soja, les amandes, oui, les riz, ce ne sont pas des laits animaux, donc on n'a pas du tout les mêmes choses.
Est-ce que le lait
Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que les produits laitiers, justement, que... Oui. Les produits laitiers vont favoriser le dépôt de calcium au niveau osseux. Hein, mais les dépôts, ils ne vont pas améliorer la densité de l'os, mais ils vont se déposer autour et vont former, vont créer des problèmes supplémentaires. Oui. Alors, tout le monde n'a peut-être pas entendu la question. Par rapport aux statines par rapport au foie. Donc, les statines chimiques attaquent le foie. Les statines, ce sont des produits qu'on en a mis en médicaments pour lutter contre le cholestérol. Et ces produits-là sont particulièrement nocifs pour le foie. Ils attaquent en particulier les tendons et les muscles. C'est connu que les statines déclenchent des douleurs articulaires, mais c'est parce que ça attaque le foie. Le foie, à ce moment-là, ne peut plus apporter le sang aux muscles et aux tendons, le sang énergie aux muscles et aux tendons, et donc on commence à avoir des douleurs. Et beaucoup de personnes ont des douleurs comme ça, liées aux statines. Donc, il y a des statines qui sont naturelles, comme la levure rouge de riz, hein, qui sont naturelles. Il y a quand même des statines dedans, mais naturelles, donc qui ont beaucoup moins de problèmes. Mais moi, je conseille toujours de ne les prendre que 5 jours par semaine. Pour vraiment, si vraiment le cholestérol est nécessaire de le traiter. Dans 90% des cas, il est inutile de traiter le cholestérol. Hein? Oui, c'est la levure rouge de riz. Mais la plupart du temps, si on est vigilant justement par rapport au cholestérol, à ne pas prendre trop de fromage, hein, eh bien, on a à ce moment-là un cholestérol en équilibre. Et surtout vis-à-vis du cholestérol, il faut manger beaucoup d'huile, manger beaucoup de poissons gras, hein, manger des sardines, manger des maquereaux, du hareng, voilà. Ce sont des poissons qui vont faire monter le bon cholestérol.
Mais est-ce qu'on peut, si on consomme donc, ces différentes huiles et ces différents poissons gras, est-ce qu'on peut consommer des oméga-3
par exemple ? On peut. Mais vous savez, les médicaments, il faut essayer de les éliminer le plus possible. Hein. Ça enrichit les laboratoires et c'est tout. Hein? Mais essayons uniquement par l'alimentation de nous équilibrer déjà. Quand on parle d'oméga 3, d'oméga 6, etc., il faut laisser un petit peu ça tranquille. Hein? Je crois qu'il ne faut pas être trop. Enfin, il ne faut pas se mettre trop de choses comme ça, et, parce qu'après on prendrait des tas de trucs. Oui.
Que pouvez-vous nous dire de l'équilibre acido-basique ?
L'équilibre acido-basique, donc la recherche de l'équilibre acide. On sait que le terrain acide est un terrain qui favorise les douleurs. Mais moi, je me méfie beaucoup quand même de la mesure de l'acide, de la mesure des acides dans le corps, parce que si on voulait véritablement être juste, il faudrait prendre tous les liquides du corps et en mesurer l'acidité, mesurer le pH. Et je crois que ça, c'est rigoureusement impossible. Donc l'équilibre acido-basique, bon, il est nécessaire, hein, le corps a besoin de cet équilibre, mais à partir du moment où on a un corps douloureux, on sait qu'on est en terrain acide. Voilà. Et moi, personnellement, quand quelqu'un est comme ça, je fais surtout l'utilisation du citron. C'est-à-dire que dans tous les légumes, sur tous les légumes dans les assiettes, quelques gouttes de citron à chaque repas, pour que véritablement on réduise ces acides, cette acidité à l'intérieur. Et ça, avec le citron, on a facilement cette amélioration. Et on voit ce changement dans la douleur. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, plus ou moins.
On pourrait dire que
C'est pas un anti-inflammatoire, je le carin, comme agit là. Hein?
Je reviens sur les saveurs dont vous avez parlé, et je me souviens que la dernière fois vous parliez que chaque chose avait, à l'intérieur, ce que l'on vous avez dit qu'il y a une notion de mère et de grand-mère. Donc, effectivement, vous vous souvenez ?
Oui.
Donc, actuellement, la saveur, ce serait le citron le matin. Donc, la mère de, la saveur, de cette saveur antérieure, ce serait le sel le soir. Oui. La grand-mère, ce serait gingembre. Donc, est-ce que l'on n'a pas intérêt à prendre chaque saveur tout au long de la journée et dans les quatre saisons ?
Ben oui. Bien sûr, oui, ça c'est... Bon, c'est dans le cycle des cinq éléments. Hein, dans le cycle des cinq éléments, si vous prenez votre papier, hein, on a la saveur acide qui correspond donc au bois et au printemps. La saveur qui le précède, c'est la saveur salée. Et pour les Chinois, l'élément dominant, c'est l'élément de la saison. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est le bois. Hein? Bon, le bois, c'est l'élément dominant. Si on veut aider le bois bien, correctement, on va faire appel à la saveur qui précède, c'est-à-dire à la maman. La maman, c'est elle qui nourrit, donc on va faire appel à la saveur salée. Si par exemple, on a des problèmes de reins, on a une fragilité du rein, on fait facilement des lumbagos, des choses comme ça, à ce moment-là, on va plutôt faire appel à la saveur précédente qui va être le piquant. Voilà. Et si un organe comme le bois, enfin, au niveau du bois, donc le foie, est très perturbé, il est engorgé, eh bien pour l'aider dans son engorgement, on va tirer, on va drainer, et pour drainer, on prend la saveur d'après, c'est-à-dire la saveur que les Chinois appellent le fish. Hein, là, ça va être la saveur amère.
Juste une chose, vous préconisez donc que, par exemple, si on a un problème de rein, prendre la saveur d'un sel et la saveur citron après, c'est-à-dire qui se suit, ou est-ce qu'il faut faire ça avec un sel le soir et la saveur citron le matin au lever.
Oui, alors ça, c'est des questions d'horaire, oui.
Voilà. Donc, on est d'accord que
l'heure du rein, c'est le soir vers 19h.
Hein? Donc, selon la théorie, si je ne rater aucune occasion, donc je prends les 5 et je prends la saveur acide de patin avant le grain cassé avec midi, le grain dans tout au long de la journée, si j'aime, le grain de sel de soir, et un peu de miel vers 11h.
Voilà. Tout à fait. Et là, on a les 5 saveurs. Voilà. Donc là, François a parlé de 5 saveurs. Hein, c'est vrai que c'est important. La saveur acide se prend plutôt le matin, hein, pour alimenter l'énergie du foie. La saveur salée se prend plutôt le soir, juste avant le dîner, pour alimenter l'énergie du rein. La saveur amère, qui alimente l'énergie du cœur, va se prendre au repas de midi. De même que la saveur sucrée, parce que elle c'est juste avant la saveur du cœur. Donc c'est une question, on appelle ça les marées énergétiques. Dans la journée, on a une énergie qui n'est pas la même tout le long de la journée. C'est au niveau des organes, ça chemine. Hein. Et la saveur piquante, elle, donc qui correspond au poumon, cette saveur piquante, elle va s'utiliser plutôt dans la matinée ou dans l'après-midi, voire les deux. Mais l'idéal, ce serait d'utiliser à 3h du matin. Qui est l'heure du poumon. Pour la mémoire, est-ce qu'il y a une faveur ? Le chocolat, c'est un amer. Voilà. À condition qu'on soit dans des chocolats quand même à 70%. Hein. Voilà. Pour la mémoire, est-ce qu'il y a quelque chose? La mémoire fait partie de... fait partie de la terre, de l'intercédent. Et c'est... bon, on en parlera à un autre moment, mais là, je vais vous donner juste deux ou trois éléments dessus. L'intercédent qui correspond à l'énergie comme organe, c'est l'énergie rate-pancréas. Alors, les Chinois ne parlaient jamais du pancréas, mais ils incluaient le pancréas dans la rate. Hein. Donc, ils parlent en rate-pancréas. La mémoire fait partie de ces organes-là. Or, la mémoire est plus perturbée en ce moment, là, parce que le rate-pancréas sont des organes qui... ce sont les organes de l'adaptation, si vous voulez. Ils nous permettent de nous adapter, au changement d'heure, de nous adapter à des tas de choses. Alors, vous voyez ce changement d'heure qu'on vient d'avoir, là, il est perturbant. Il perturbe notre système, notre marée énergétique, il la perturbe. Et donc ça touche directement un organe, c'est le rate-pancréas. Et donc, ce sont des organes qui sont très importants sur le plan de la mémoire. Quand il y a un élément qui est très qui est très simple à bien voir, c'est que quand cet organe-là est perturbé, en fait on rumine. Hein, il y a les pensées qui tournent en permanence, on rumine. Voilà. Ça tourne, ça rumine, et les idées sont tellement prises que de toute façon, on ne peut pas mémoriser. C'est pas possible. Souvent d'ailleurs aussi, on se réveille à 2h du matin, etc. Donc on a besoin de l'aider. Et pour améliorer ces organes-là, eh bien, c'est la saveur sucrée. Donc on prend un tout petit peu de miel par exemple, ou de confiture, ou quelque chose, hein, bon, juste sur le bout de la langue. Hein. Voilà. Et on le prend, de préférence à l'heure rate-pancréas, qui se situe entre 9h et 11h. Solaire. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est entre 11h et 13h. Hein. Et après, c'est l'heure du cœur. Donc après, c'est l'heure de la mer, hein, de l'amertume. Bon, après, il y a des mouvements de Qigong aussi hein, à faire. Bon, on n'est pas, ce soir, on n'est pas là pour le Qigong. Hein. Voilà. Oui.
Je voulais revenir à l'énergie positive sur la maison. Le premier cas où tout est ouvert, il y a quatre fenêtres. C'est, le bas, c'est un carré avec quatre portes fenêtres et aucune cloison. Et une cuisine aménagée, juste dans mon bord.
J'essaie de me le mettre en tête.
Alors, c'est un étage, le bas. Un carré, sur ces deux faces, il y a deux portes fenêtres qui se donnent vis-à-vis. La première, c'est vraiment droit. Et dans le deuxième, il y a une petite encoche, mais c'est une cuisine aménagée, donc c'est pas une cloison, ça fait comme un bar. Est-ce que c'est pas bon, ça?
Tu as fait le diagnostic.
Il
faut mettre des séparations.
Est-ce que dans ce cas-là, un rideau suffit ou il faut carrément faire un mur?
Et un rideau, c'est déjà quelque chose. Hein, mais là, c'est moins bien qu'un mur.
Thank you.
Il y a des paravents qui peuvent être mis.
Je reviens au côté stop. Puisque au printemps, sur la langue, on peut mettre une goutte de citron ou une goutte de vinaigre, vous avez dit.
Oui, oui.
Donc, on peut mettre pour un peu de citron, puis tirer le vinaigre de cidre et l'huile d'olive.
Tout à fait.
Et on peut la rajouter la salade.
Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Il y avait. Là-bas.
Bonsoir. Je posais la question de servir en verre pour séparer la cuisine, la pièce de vie, par exemple. Est-ce que le verre est un écran ou pas?
Est-ce que le verre est un écran? Alors ça.
Est-ce qu'il faut faire un dos ou des parois en verre, par exemple?
À mon avis, c'est un écran, mais c'est visible quand même, donc c'est peut-être pas une bonne chose.
Vous voulez pas me rendre là. Faut que vous y allez
bien, oui. Direct de chiffre.
Vous avez compris entre le citron et l'huile d'olive et aussi la goutte de citron sous la langue. On le fait à tel moment et on connaît le jour. La séparation entre les deux. Vous avez parlé de défaut et vous avez parlé du citron.
Alors, c'est pas du tout fait pour la même chose. C'est pas du tout fait pour la même chose. La goutte de citron va stimuler l'énergie yin du foie, hein, alors que, donc, va permettre au foie d'être beaucoup plus à l'aise dans toutes ses actions, alors que le jus d'admi-citron dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive va permettre de nettoyer les voies biliaires, hein, c'est-à-dire va nettoyer les canaux qui sortent du foie, qui sortent de la vésicule, va nettoyer aussi la vésicule jusqu'au duodénum, hein, et donc, ce qui est important de faire, c'est de stimuler l'énergie du foie à la saison, donc cette énergie du foie, là, selon du printemps, hein, c'est essentiel de le faire, mais également si on a des problèmes de foie depuis son enfance, depuis, voilà, si on est perturbé depuis longtemps, depuis toujours, hein, et bien à ce moment-là, on a besoin d'aider notre foie à mieux fonctionner. Il n'y a que si on a déjà eu des calculs ou si on sent qu'on est encrassé, voilà, là, on a besoin à ce moment-là de faire soit une journée, soit deux jours, soit trois jours de nettoyage. Hein. Mais c'est différent. Et autant la goutte de citron, ça sera à faire tous les jours. Quelqu'un qui a par exemple des douleurs un peu partout, c'est là, c'est tous les jours, pendant très longtemps, des années. Et un citron, quand on le coupe en deux, il garde son acidité normale, son goût, sa saveur, il la garde à peu près 4 jours. Après ces 4 jours, il change le goût. Ouais, après, c'est moins efficace. Le vin rosé. Le vin rosé, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée.
Lorsque vous dites qu'il ne faut pas se vacciner contre la grippe, comment fait-on pour une personne qui est déjà âgée et qui a des diabétiques et qu'on va dire en fait de tous les jours, pour qu'on fait à la place pour éviter le risque?
On tonifie son énergie, hein, on l'aide pour lui permettre d'équilibrer tous ses organes régulièrement. Et voilà, on n'a pas d'autres possibilités. Hein. Mais le fait d'injecter quelque chose comme vaccin diminue le système immunitaire et donc c'est la source ensuite de problèmes. De toute façon, un jour ou l'autre, ces personnes-là auront des maladies, elles auront une grippe pendant 6 mois. Hein. À un moment donné, ça se passera mal. Donc on a besoin surtout d'aider leur énergie à équilibrer. On n'a pas besoin de ces vaccins-là. On a besoin surtout d'un équilibre de l'énergie. Oui. Mais après, il y a des tas d'autres, possibilités. Le vaccin de la grippe, il sort en général à partir de fin septembre. Hein? Donc il sort justement au moment où on ne doit plus les faire. Et après, bon. Mais pour équilibrer notre énergie, on a des tas d'autres possibilités. Mais cet équilibre dans les saisons, et c'est l'équilibre important, ça, c'est celui-là qui est important.
La position du lit dans la chambre, par exemple, par rapport au
Shenshi.
Non,
c'est pas. D'abord, ça varie selon les personnes. Et là, il faut voir comment est la maison, comment elle est située, comment elle est orientée. Il y a plein de choses. Là, je peux pas expliquer ça comme ça. Après, il faut voir maison par maison et travailler avec une boussole. Je sais pas. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas avoir le lit entre une fenêtre et une porte. Ou entre deux fenêtres. Il faut pas que l'axe du milieu de la fenêtre et l'axe du milieu de la porte nous coupe par exemple au niveau du thorax. Hein? Parce que on a tout ce qu'il faut pour pas dormir correctement et pour pas se reposer. Non, mais ça c'est autre chose. Un Vélux au-dessus du lit, c'est pas bon. Mais à ce moment-là, quand on a un Vélux au-dessus du lit, ce qu'il faut, c'est mettre un rideau.
Pas d'autres questions ?
Si, il y en a une là-bas. Il y en a une au fond. Allez, la dernière question.
Alors, c'est la dernière question. Avant de prendre la route. On revient aux vaccins, quand on est obligé de se faire vacciner, est-ce qu'il n'est pas judicieux de prendre son vaccin à l'automne, de le laisser au frais, se faire vacciner en février, alors ?
Oui ? Ben oui, pourquoi pas? Si on a une bonne énergie, on n'attrape pas la grippe.
Merci.
Merci à tous.
Alors merci à tous. Et merci au docteur Rousseau.